La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Alors ce matin, nous allons considérer un sujet qui, en fait, sera la cinquième partie de notre série d'études sur l'Église du Christ. OK? Et cette partie a pour titre, comme vous le voyez affiché, Laodicée n'est pas Babylone. Laodicée n'est pas Babylone. Et le texte de base de cette présentation se trouve en Apocalypse 3, du verset 14 à 22. Où allons-nous? Apocalypse 3, verset 14 à 22, où il nous est dit, écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le prince de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche et des vêtements blancs pour être vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Notez que dans ce message adressé à la septième et dernière église, il n'y a pas d'allusion faite à Babylone. Et voyez-vous, certains pensent que l'église de la Odyssée a toujours été, est encore et sera toujours l'église adventiste du septième jour. Ou devrais-je dire l'organisation religieuse nommée Église adventiste du septième jour. Et que, de ce fait, nous avons tort de penser et d'enseigner que, aujourd'hui, ce système est devenu Babylone en raison du fait qu'il ait abandonné des vérités fondamentales telles que la doctrine de Dieu le Père et de son Fils, l'expiation finale à partir de 1844, ainsi que d'autres points que je vous inviterai à considérer dans la huitième présentation du Committee de la Réunion de décembre 2018. Je répète, prêtez bien attention à la huitième présentation du Committee de la Réunion de décembre 2018, car justement, cette présentation va traiter en détail des points de divergence qu'il y a entre l'adventisme historique et l'adventisme moderne. Et de manière intéressante, il y a un groupement de personnes qui ont une vision, je dirais, singulièrement, singulièrement, ils ont une vision qui va dans ce sens, ok? Qui va dans ce sens de manière bien singulière. Et je veux bien entendu parler du mouvement davidien, le mouvement de la Verge du Berger, initié par M. Victor Tachoutef. Et la raison, au passage, pour laquelle j'ai eu à cœur de faire cette présentation, c'est parce que durant mes récents voyages, j'ai été, je dirais, confronté, et oui, j'ai été confronté, ou j'ai eu affaire à justement ce genre de vision. Et les gens ne comprenaient pas, en fait, pourquoi, eh bien, nous, et je dirais même ne comprenaient pas pourquoi je range aujourd'hui la dénomination actuelle moderne parmi les filles de Babylone, en raison du fait que, eh bien, d'après ce qu'il est cru, que c'est l'église de Laodicée, et donc la septième et la dernière, et que dire cela reviendrait en fait à faire une huitième église, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est ça en fait. Ils pensent que comme c'est la septième et la dernière, eh bien, dire que là c'est pas bon, eh bien, cela revient à faire une huitième église. Examinons cette vision, la vision davidienne au sujet des sept églises de l'Apocalypse. Ok? Là, on croit que Éphèse est l'église apostolique, que Smyrne est l'église luthérienne, que Pergame est l'église presbytérienne, que Thyatire est l'église méthodiste, que Sardes est l'église baptiste, que Philadelphie est le mouvement millérite, et que Laodicée est l'église adventiste du septième jour. Et dans certaines déclinaisons de cette vision, on dit même que, en fait, ce sont les Philadelphies, ce sont les adventistes du premier jour. Okay? Et il y a même des variantes, d'accord? J'ai même eu l'occasion de rencontrer des variantes, notamment quelqu'un qui disait que Thyatire, c'était l'église catholique. Okay? Donc voilà. Donc ça, c'est la vision principale que j'expose pour montrer comment on perçoit les choses, d'accord? Comment les choses sont perçues, la vision des sept églises, la vision populaire des sept églises. Et celle-là en est, je dirais, la majoritaire. Okay? Et il y a d'autres qui sont des variantes. Mais dans cette vision, okay, comme dans toutes les autres variantes, l'identité, je dirais, dans cette vision, en fait, que populaire de l'identité des sept églises de l'Apocalypse, eh bien, on fait correspondre une église à une organisation religieuse ou une dénomination. D'accord? On fait correspondre, je répète, une église à une organisation religieuse ou à une dénomination. D'accord? Et cette vision, comme les autres, cette vision de l'identité des sept églises de l'Apocalypse conduit nos opposants à nous accuser, comme je l'ai dit tout à l'heure, de former une huitième église. Étant donné que nous rangeons la dénomination des Adventistes du septième jour actuelle, moderne, dans la famille de Babylone. Mais mes amis, durant cette présentation, nous allons découvrir, parce que nous allons démontrer que Laodicée, l'église de Laodicée, est indépendante de l'église adventiste du septième jour, c'est-à-dire de l'organisation religieuse nommée Église adventiste du septième jour. Et que le fait que cette organisation religieuse soit devenue Babylone ne fait pas de Laodicée Babylone. D'accord? Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler, d'accord, faire un rapide, mais vraiment en éclair, un rappel rapide, un rappel éclair sur les parties précédentes de cette série d'études, d'accord? Nous avons dans la partie 1 considéré l'Église du Christ et son origine. Nous avons vu que l'Église, ok, est un terme qui est neutre, d'accord? Et selon ce qui est cru, ce qui est pratiqué, eh bien, c'est soit l'Église du Christ, soit c'est l'Église de Satan. Dans la partie numéro 2, nous avons considéré les caractéristiques de l'Église. Et là, nous avons vu tous les points qui définissent, qui caractérisent l'Église. Et au passage, nous avons vu qu'il y a une différence, okay, et les caractéristiques principales, en fait, de l'Église, c'est qu'elle dispense la lumière de la vérité. Contrairement à Babylone, okay, qui, eh bien, répand l'erreur, et par le biais de son vin qui est enivrant. Dans la troisième présentation, nous avons vu l'organisation de l'Église du Christ. Okay? Nous avons vu, je vais résumer ça comme ça, que c'est Christ qui est en fait à la tête de son Église, okay? Qui est composée effectivement d'Églises locales, mais qu'au final, il n'y a qu'une seule Église, et que c'est Christ lui-même qui est à la tête. Par son esprit, il dirige son Église, et nous avons vu les dons spirituels qui sont accordés justement pour le fonctionnement de l'Église. Et nous avons même eu l'occasion de montrer que la vision moderne que certains ont des dons spirituels, n'est pas conforme à ce que la Bible nous enseigne. Parce que il y a des personnes qui pensent qu'à la fin des temps, il y a certains dons spirituels qui sont enlevés de l'Église, ce qui n'est pas conforme avec la parole de Dieu. Et dans la quatrième partie, nous avons vu Ellen White et l'Église adventiste du septième jour. Nous avons considéré comment Ellen White a écrit au sujet de l'Église adventiste du septième jour et de, le fait qu'elle n'était pas infaillible et qu'elle pouvait même être jugée et trouvée trop légère, d'accord? Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, beaucoup de personnes pensent que, en fait, la dénomination adventiste pourra, continuer sans interruption, alors qu'en fait, ce n'est pas ce que l'esprit de prophétie disait. Et nous l'avons vu, et nous avons même vu, en fait, qu'il n'y a pas de rapport, en fait, doctrinalement parlant, entre ce que croyaient les pionniers et ce que la dénomination actuelle enseignait. Et c'est par rapport à cette présentation-là que nous avons pu établir, d'accord, bien évidemment avec les autres, mais surtout cette présentation-là nous a permis de vraiment comprendre que le peuple de Dieu, à l'heure actuelle, j'assume ce que je dis parce que j'ai l'autorité de la parole de Dieu pour le dire. Le peuple de Dieu, à l'heure actuelle, mes amis, ceux qui veulent servir Dieu fidèlement, en esprit, en vérité, ne peuvent pas être dans cette organisation comme dans les autres organisations, d'accord? Parce que là, on enseigne et on croit des choses similaires aux églises protestantes. Juste un rappel, l'expiation finale. On n'y croit plus, comme chez les protestants, ok? Dans l'adventisme à l'heure actuelle, l'expiation, mes amis, se termine à la croix. Et c'est ce qu'on croit chez les protestants, en fait. Donc là, c'est un rappel. Et donc, aujourd'hui, c'est la cinquième partie. Et le texte suivant est souvent cité pour soutenir la croyance selon laquelle Laodicée a toujours été et sera toujours la dénomination des adventistes du septième jour. Et lisons-le, il se trouve dans Message choisi, volume 2, page 75, paragraphe 3. Dieu conduit son peuple, qu'il s'est choisi sur la terre. Une église à qui il a confié le dépôt de sa loi. Il l'a chargé de communiquer au monde une vérité éternelle. Il le reprend et le châtie. Le message à Laodicée s'applique aux adventistes du septième jour qui ont reçu de grandes lumières et n'en ont pas tenu compte. Ceux qui se sont beaucoup vantés, mais n'ont pas marché au pas avec leur conducteur, seront vomis de sa bouche, à moins qu'ils ne se repentent. Le message qui assimile l'église adventiste du septième jour à Babylone et invite le peuple de Dieu à en sortir ne procède pas de messagers célestes ni d'un instrument humain quelconque inspiré par l'Esprit de Dieu. Si cette déclaration de la messagère signifie que, indépendamment de son apostasie, la dénomination des adventistes du septième jour sera toujours l'église de Laodicée, alors la déclaration suivante signifie que les autres églises protestantes seront également toujours l'église de Laodicée. En effet, dans Testimonies for the Church, volume 6, à la page 77 et 78, nous lisons « L'avertissement pour la dernière église doit également être proclamé à tous ceux qui prétendent être chrétiens. Le message laodicéen, tel une épée tranchante à deux tranchants, doit aller à toutes les églises. » Et on cite Apocalypse 3, versets 15 à 19. « Notre œuvre est de proclamer ce message. » Faisons-nous tout notre possible pour que les églises soient averties? Nous avons une œuvre à accomplir en faveur des ministres des autres églises. Dieu souhaite qu'ils soient sauvés. Comme nous, ils ne peuvent obtenir l'immortalité que par la foi et l'obéissance. Nous devons travailler durement pour qu'ils puissent l'obtenir. Dieu souhaite qu'il participe à son œuvre spéciale pour le temps présent. Il souhaite qu'il fasse partie du nombre de ceux qui donnent à sa maison de la nourriture au temps manqué. Pourquoi ne devrait-il pas être engagé dans cette œuvre? Nos ministres devraient chercher à se rapprocher des ministres des autres dénominations. Priez pour et avec ces hommes pour lesquels Christ est en train d'intercéder. Une responsabilité solennelle leur incombe. En tant que messager du Christ, nous devrions manifester un intérêt profond et sincère à l'égard de ces bergers du troupeau. Remarquez ici qu'elle déclare de manière très claire, ok, que l'avertissement pour la dernière église doit également être proclamé à tous ceux qui prétendent être quoi? Remarquez, qui prétendent être quoi? Chrétiens, mes amis. Chrétiens. Remarquez qu'elle dit aussi que nous avons une œuvre à accomplir en faveur des ministres des autres églises. Ok? Et remarquez aussi, et toujours dans le contexte de la Odyssée, qu'elle dit que nos ministres, d'accord? Elle dit que nos ministres devraient chercher à se rapprocher des ministres des autres dénominations. Et elle dit à la fin du paragraphe que ce sont des bergers du troupeau. Waouh! Mes amis, est-ce que à travers cette déclaration, la messagère est en train de se contredire? C'est-à-dire qu'elle est en train de dire qu'en fait, les autres dénominations ne sont pas Babylone parce qu'elles sont concernées par le message à la Odyssée. Non, non, mes amis, il n'y a pas de contradiction. Voyez-vous, le point commun que cette déclaration a avec la précédente est qu'à aucun moment, la messagère ne dit textuellement que la Odyssée est l'église adventiste du septième jour, ou l'église méthodiste, ou l'église baptiste, ou l'église un tel. À aucun moment, elle ne dit que l'église de la Odyssée, c'est l'église, et elle donne un nom. À aucun moment, mes amis. Mais, et vous noterez, qu'elle applique toujours cela à des individus qui sont membres d'organisations religieuses. D'accord? Et pas à ces organisations religieuses desquelles ces individus sont membres. Donc, ça c'est quelque chose qui est vraiment significatif, mes amis. C'est quelque chose qui est vraiment significatif, parce que si nous manquons ce point, eh bien, nous n'allons pas comprendre ce qui est dit là. Et nous allons croire que, en fait, le message à la Odyssée, étant donné qu'il s'adresse à, en fait, tout le monde chrétien, en quelque part, d'accord? Eh bien, qu'en fait, tout le monde chrétien est l'église de la Odyssée, et qu'en fait, étant donné que c'est l'église, puisque nous allons voir tout à l'heure que c'est l'église du Christ, eh bien, qu'en fait, il n'y a pas lieu de les appeler Babylone. Non, mes amis, non. Non. Et la vérité ici est la suivante. Et je vous demande bien de prêter attention à ça. La vérité ici est la suivante. C'est que le fait que le message à la Odyssée s'applique aux membres d'une organisation religieuse n'implique pas que l'église de la Odyssée est cette organisation religieuse. Je reprends. Le fait que le message à la Odyssée s'applique aux membres d'une organisation religieuse n'implique pas que l'église de la Odyssée est cette organisation religieuse. Mes amis, le fait que le message à la Odyssée s'appliquait du vivant d'Ellen White aux membres de l'église méthodiste n'implique pas que l'église de la Odyssée était et est l'église méthodiste. Tout comme le fait que le message à la Odyssée s'appliquait à l'époque d'Ellen White aux membres de l'église adventiste du septième jour, n'implique pas que l'église de la Odyssée est l'organisation religieuse nommée église adventiste du septième jour. Afin de bien comprendre pourquoi l'église de Laodicée naît au 21e siècle, pas l'organisation religieuse nommée Église Adventiste du 7e jour, nous avons besoin de comprendre que la période de temps de l'église de Laodicée commença bien avant l'existence de l'organisation religieuse nommée Église Adventiste du 7e jour. Et comment allons-nous établir cela? Eh bien, par l'étude des prophéties bibliques. En effet, l'étude des prophéties nous révèle quand devait commencer le temps de l'église de Laodicée, ou, pour être plus exact, quand devait commencer le temps de la proclamation du message à Laodicée. Laodicée vient du grec Laodikia, et ce nom se compose de Laos, qui signifie peuple, et de Dikea, qui signifie juger. Ainsi, Laodicée peut signifier peuple jugé. Donc, l'église de Laodicée est l'église du peuple jugé. Autrement dit, le peuple qui vit au jour du jugement. Or, étant donné que le jugement annoncé par le premier ange d'Apocalypse 14 commença le 22 octobre 1844, nous concluons que le temps de la proclamation du message à Laodicée commença à cette même époque, ce qui est confirmé par le message adressé à l'église de Philadelphie. Car en Apocalypse 3, verset 8, nous lisons « Je connais tes œuvres, voici, j'ai ouvert une porte devant toi et personne ne peut la fermer. » Je m'arrêterai ici. Cela fait référence à la fin de la période de temps de Philadelphie. Christ est notre grand souverain sacrificateur, exerçant son ministère dans le sanctuaire céleste. Or, le rituel du sanctuaire terrestre se composait essentiellement de deux parties. Le service quotidien pour l'administration du péché qui avait lieu dans le lieu saint, et le service annuel, le jour des expiations, qui était considéré comme un jour de jugement et qui, lui, avait lieu dans le lieu très saint du sanctuaire, d'après ce que nous lisons en Hébreux 9, verset 1 et au verset 6 et 7. Et étant donné que le sanctuaire terrestre était un modèle des choses célestes, d'après ce que l'apôtre Paul nous dit en Hébreux 8, verset 5, il convient de conclure que les services quotidiens et annuels du sanctuaire terrestre ont leur contrepartie dans le ministère du Christ. Au jour antitypique, à partir du 22 octobre 1844, notre grand souverain sacrificateur quitta le lieu saint du sanctuaire céleste afin d'entrer dans le lieu très saint. Par conséquent, la porte fermée est celle du lieu saint du sanctuaire céleste. Et vous comprendrez que la porte ouverte est, quant à elle, celle du lieu très saint du sanctuaire céleste, où le Christ est dès lors engagé dans l'œuvre du grand jour antitypique des expiations, c'est-à-dire l'expiation finale. D'accord? Il fait l'expiation finale. Autrement dit, la porte fermée indique la fin de la première phase du ministère céleste du Christ et la porte ouverte, le début de la deuxième phase. Ainsi, 1844 est bel et bien la date à partir de laquelle commence le temps de la proclamation du message de Laodicée. Et sur ce point, mes amis, l'histoire même du message à Laodicée s'accorde avec la Bible. Quelques années après 1844, certains pionniers de la foi au message du troisième ange ont reconnu que le message à Laodicée s'appliquait à eux-mêmes. Et de ce nombre étaient James et Ellen White. Mais jusqu'alors, ce message avait été compris par les adventistes comme s'appliquant aux croyants adventistes qui n'avaient pas suivi la lumière du message du troisième ange et s'étaient organisés pour former une autre église qui combattait amèrement la vérité du sabbat. Voilà ce qu'ils croyaient au départ. Ils croyaient que le message à la Odyssée concernait les adventistes qui n'avaient pas accepté le message du troisième ange. Et que eux, ils étaient Philadelphie et qu'ils le resteraient toujours, en fait. D'accord? Mais dans un article de la Review and Herald du 9 octobre de l'année 1856, et contenant une série de questions, James White déclara « L'état de l'Odysséen, tiède et ni froid ni bouillant, n'illustre-t-il pas convenablement l'état du corps de ceux qui professent le message du troisième ange? » Et plus loin, il déclara « Si telle est notre condition en tant que peuple, avons-nous de vraies raisons d'espérer en la faveur de Dieu si nous ne tenons pas compte du conseil du témoin fidèle comme suit ?» Et il cite Apocalypse 3, versets 18 à 21. En lisant cela, nous nous rendons compte que la lumière était en train de se faire dans l'esprit du pasteur White. Si bien que le numéro suivant de la review comportait une présentation des sept églises. Et dans ses remarques d'ouverture, il déclara « Nous devons convenir avec certains auteurs modernes que ces sept églises doivent être comprises comme représentant cette condition de l'Église chrétienne répartie en sept périodes et couvrant l'ensemble de l'ère chrétienne. » J'aimerais que l'on fasse une pause ici dans notre analyse, dans notre considération de la vision qu'a développée le pasteur James White. Notez qu'il dit que les sept églises doivent être comprises comme représentant sept conditions de l'Église. Il ne dit pas « représente sept églises différentes » au pluriel. Église n'est pas au pluriel, là. Mais il dit « sept conditions de l'Église singulier, de l'Église chrétienne. » Et voyez-vous, sur ce point, James White était en parfaite harmonie avec sa femme. En effet, dans Conquérant Pacifique, à la page 521, paragraphe 1, nous disons « Les noms des sept églises symbolisent, et remarquez ça, l'Église singulier. » Le mot est au singulier, mes amis. Que ce soit dans le français ou dans l'anglais, le mot est au singulier. L'Église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Le chiffre 7 indique la plénitude et fait ressortir que les messages s'étendent jusqu'à la fin des temps, alors que les symboles employés révèlent la condition de l'Église aux différentes époques de l'histoire du monde. Rappelez-vous de la vision davidienne des sept églises. Mes amis, lorsque vous parlez avec en tout cas, je vais pas dire lorsque vous, parce que je dirais lorsque moi, j'ai eu l'occasion de parler avec différentes personnes ayant ces visions-là, les visions des sept églises que nous avons exposées au départ, il est surprenant de voir que ces personnes-là disent et croient que les sept églises représentent sept églises différentes. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas bien grave qu'ils croient que sept églises différentes, parce que la Bible elle-même fait la distinction. Mais mes amis, quand vous considérez l'enseignement biblique de l'Église, vous vous rendez compte que Dieu n'a pas 150 000 églises, en fait. Dieu n'a qu'une seule Église. Dieu n'a qu'une seule Église. Il n'a qu'une seule Église. Donc, dire que c'est sept églises différentes, et puis après aller à dire que l'Église luthérienne, c'est l'Église un tel, l'Église méthodiste, c'est l'Église un tel. Mais mes amis, cela n'est pas correct. Cela ne s'accorde ni avec la Bible, ni avec l'esprit de prophétie, ni avec la vision adventiste historique. Autrement dit, cela est erroné. D'accord? Et gardez bien ça à l'esprit, mes amis. Les sept églises représentent l'Église singulier. L'Église singulier du Christ à travers sept périodes de temps de l'ère chrétienne. Et revenons maintenant au pasteur James White. Car Il a ensuite traité dans l'édition de la review du 16 octobre 1856, il a ensuite traité chaque église séparément. Et en arrivant à la septième, il déclara combien la triste condition de cette église n'est-elle pas humiliante pour nous en tant que peuple? Et cette terrible condition n'est-elle pas l'image la plus parfaite de notre condition actuelle? Oui, et il sera inutile d'essayer d'échapper à la force de ce témoignage adressé à l'église de Laodicée. Puisse le Seigneur nous aider à le recevoir et à en tirer profit. Le pasteur James White était en train d'écrire à des adventistes qui avaient toujours cru que, en fait, le message à Laodicée s'appliquait aux adventistes qui avaient rejeté le message du troisième ange. Et là, il leur faisait comprendre que non, mes amis, cela s'applique à nous, avant tout à nous, c'est nous. Et à la même période, sa femme, Ellen White, écrivit dans Testimonies for the Church, volume 1, à la page 141, paragraphe 1, « Le Seigneur m'a montré en vision certaines choses concernant l'Église dans son état de tiédeur actuel que je vais vous raconter. L'Église m'a été présentée en vision. L'ange a dit à l'Église, « Jésus te parle. Sois zélé et repens-toi. » Remarquez, il lui a été montré en vision des choses concernant l'Église dans son état de tiédeur actuel. Et là, elle parlait, mes amis, aux personnes qui faisaient partie de son Église. D'accord? Aux personnes qui étaient ses frères et sœurs. D'accord? Et remarquez ce qu'elle dit dans Message choisi, volume 1, page 418, paragraphe 1. Le message à l'église de Laodicée s'applique à notre condition. Avec quelle clarté est décrit l'état de ceux qui pensent avoir la vérité, qui se vantent de connaître la parole de Dieu, alors qu'ils ne ressentent pas son pouvoir sanctifiant dans leur vie? Un amour fervent pour Dieu fait défaut dans leur cœur. Et c'est justement cet amour fervent qui fait du peuple de Dieu la lumière du monde. Donc, remarquez qu'elle faisait comprendre que cela s'appliquait à leur condition. D'accord? Et il y a, je le sais, un écart de date entre les deux déclarations. Mais le point que j'ai voulu établir avec ces deux-là, c'est que c'est la même chose, mes amis. Que ce soit en 1856 ou après, elle appliquait cela aux adventistes, à ses frères et sœurs, qui croyaient les mêmes choses qu'elle. Ainsi, l'application du message à Laodicée à leurs conditions a été reconnue par les croyants au message du troisième ange à partir de 1856. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'avons-nous dit là? Nous avons dit que à partir de 1856, les personnes qui croyaient au message du troisième ange, les personnes qui avaient accepté le message du troisième ange, reconnaissaient que le message à Laodicée s'appliquait à eux. Vous avez compris ça? Je vous demande de retenir la date, 1856, mes amis. Parce que à cette période de l'histoire, en 1856, le monde n'avait pas encore entendu parler d'une quelconque organisation religieuse dénommée Église Adventiste du Septième Jour, et encore moins d'une conférence générale des Adventistes du Septième Jour. Est-ce que vous comprenez ça? Mes amis, nous avons vu que le message à Laodicée commence à s'appliquer. Sa période de temps pour rentrer en vigueur, c'est 1844, lorsque le jugement commence, parce qu'il s'adresse au peuple jugé. Et que les croyants au message du troisième ange ont reconnu seulement en 1856 que cela s'appliquait à eux. Mais mes amis, en 1844, pas plus qu'en en 1856, ce monde n'avait jamais entendu parler d'une quelconque organisation religieuse dénommée Église Adventiste du Septième Jour. Et nous devons, pour bien saisir cela, comprendre l'histoire de la formation de l'Église, de l'organisation religieuse dénommée Église Adventiste du Septième Jour. En réponse à un appel à une conférence générale signée par J.N. Andrews, Uriah Smith, J.H. Wagoner et James White, des ministres de cinq États américains se sont rencontrés à Battle Creek du 28 septembre au 1er octobre de l'année 1860. Notez bien les dates, s'il vous plaît. Ce fut l'un des rassemblements d'adventistes observant le sabbat le plus important jusqu'à cette époque. Immédiatement après le sabbat 29 septembre de l'année 1860, les délégués se sont réunis pour les affaires et Joseph Bates fut nommé président. Un compte-rendu complet des débats a ensuite été publié dans la Review and Herald du 9 au 23 octobre de cette même année. James White demanda la création d'une organisation pouvant légalement détenir le bureau de publication ainsi que les lieux de rencontre, les lieux de réunion. D'accord? Il était fortement soutenu par J.N. Loughborough, mais de nombreux délégués craignaient toujours de devenir une part de Babylone. Ils craignaient d'arriver à un point où ils font partie de Babylone en raison du fait qu'ils se seraient organisés. D'accord? Et après de longs débats, un comité de 3 membres, J.N. Andrews, J.H. Wagoner et T.G. Butler, fut désigné afin d'élaborer un plan d'organisation. Ce comité, élargi par 7 autres personnes, élabora une constitution pour une association légale telle que celle proposée par J.N. Loughborough. Cela fut adopté. Au début, la délégation fut incapable de s'accorder sur un nom confessionnel. Mais il était évidemment impossible de gérer une société avec une organisation qui n'avait pas de nom, ok? Parce que quand je dis société, il faut même comprendre entreprise, d'accord? Une entreprise qui n'avait pas de nom, ok? Et Butler et d'autres furent en faveur du nom, accrochez-vous bien, Église de Dieu. Butler et d'autres furent en faveur du nom Église de Dieu. Mais finalement, avec une voix d'écart, c'est le nom Adventiste du Septième Jour qui fut voté comme représentant le mieux les croyances de l'Église. Et à propos de ce nom, Ellen White remarqua dans Témoignage pour l'Église, volume 1, page 89, paragraphe 1, « Nous ne pouvons choisir aucun nom plus approprié que celui qui s'accorde avec notre profession de foi et qu'il exprime de façon à nous désigner comme un peuple particulier. Le nom d'Adventiste du Septième Jour est un reproche constant au monde protestant. » Un comité de 7 membres, présidé par James White, fut nommé pour former l'association qui devait s'appeler Advent Review Publishing Association. Le printemps suivant, un nouveau comité de 5 membres fut formé et le nom fut changé pour devenir Seventh-day Adventist Publishing Association, c'est-à-dire l'association de publication des Adventistes du Septième Jour, ou Adventistes du Septième Jour. Et la maison d'édition fut constituée en société le 13 mai de l'année 1861 en vertu des lois du Michigan. Et lors de sa première réunion, le 23 mai, James White fut élu président de l'association et rédacteur en chef de la Review and Herald. Voilà, mes amis, l'histoire, ok, l'histoire de la formation, l'histoire qu'il y a derrière le nom, ok, derrière la formation de la dénomination, ok. Mais voyez-vous, c'est en 1860 qu'il y a eu la constitution de la dénomination des Adventistes du Septième Jour, d'accord, ok. Et entre 1861 et 1862, les conférences, ou si vous préférez, les fédérations du Michigan, de l'Iowa, du Vermont, de l'Illinois, du Wisconsin, du Minnesota et de New York furent constituées. Mais ce n'est que lors de la réunion annuelle de la conférence de la Fédération du Michigan, ayant eu lieu du 20 au 23 mai de l'année 1863 à Battle Creek, que le projet de constitution pour la conférence générale fut rédigé et voté. Est-ce que vous avez compris cela? Mes amis, l'histoire nous montre que le message à la Odyssée, bibliquement parlant, ne peut rentrer en vigueur qu'à partir de 1844. Maintenant, c'est à partir de 1856 que les croyants au message du troisième ange ont reconnu que ce message s'appliquait à eux. Et c'est quelques années, c'est des années après, je dirais, qu'ils se sont organisés et que Dieu les a conduits à travailler pour constituer une dénomination religieuse qui leur permettrait de faciliter l'œuvre. Parce que en fait, il faut comprendre, les frères et sœurs, avant la création d'une quelconque dénomination, avant la création des conférences du Vernon, du Wisconsin, etc., et avant même la création de la conférence générale, les adventistes qui croyaient, qui observaient le sabbat, okay, c'est-à-dire ceux qui avaient la foi au message du troisième ange, ils se considéraient déjà comme une église, mes amis. Ils n'avaient pas besoin d'une organisation religieuse pour se considérer comme une église, puisqu'on l'a vu, Ellen White, en 1856, parle déjà de l'église, alors qu'il n'y a même pas de dénomination qui est créée. Ainsi, comme nous le voyons, la période de temps de l'église de Laodicée commença bien avant l'existence de l'organisation religieuse nommée Église Adventiste du Septième Jour. Mes amis, j'aimerais vous rappeler cette déclaration. Dans le livre en haut, à la page 307, paragraphe 5, Dieu a une église. Ce n'est pas la grande cathédrale, ni l'institution nationale, ni les différentes dénominations. C'est le peuple qui aime Dieu et garde ses commandements. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Même lorsque le Christ se trouve parmi quelques humbles âmes, il s'agit de son Église, car la présence du Très-Haut et du Saint des Saints, dont la demeure est éternelle, peut seule constituer une Église. Voyez-vous? Les choses sont claires. Dieu a une Église. Il n'y en a qu'une seule, mes amis. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Dieu a une Église. Et ce n'est pas une cathédrale, une institution nationale, ou même les différentes dénominations. Non. Pas même la dénomination méthodiste, pas même presbytérienne, et encore moins Église Adventiste du Septième Jour. Voyez-vous? Non. C'est le peuple, mes amis, qui aime Dieu et qui garde ses commandements. Je le répète, hein. Il faut que cela puisse travailler nos esprits en ce matin. L'Église de Dieu n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais une organisation. Jamais, mes amis. Jamais. Never. L'Église de Dieu a besoin d'être organisée. Elle a besoin d'être organisée. C'est vrai. Amen. Oui. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Oui. Mais mes amis, l'organisation ne sera jamais quelconque, quelle qu'elle soit, aussi bonne qu'elle soit, mes amis, ne sera jamais l'Église de Dieu. D'accord? Et Conquérant Pacifique, à la page 521, paragraphe 1, rappelez-vous ça, mes amis. Rappel, ça c'est un rappel. Les noms des sept églises symbolisent l'Église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. C'est bien cela. Juste cela que je lirai. Donc, remarquez, Dieu n'a qu'une Église, mes amis, qu'il voit à travers sept périodes de temps. Sept périodes de temps. Donc, faites bien attention lorsque vous écoutez des gens vous parler et vous dire « Oui, c'est... voilà, il y a différentes églises, il y a ces différentes églises. » Non, mes amis, c'est au singulier. C'est au singulier, l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, d'accord? De manière, je dirais, universelle, de manière globale, ok? C'est l'Église de Dieu. Dieu n'a qu'une seule Église, d'accord? Satan a la sienne, Et justement, c'est parce que Dieu a la sienne. Donc Satan opère des contrefaçons. Mes amis, à travers ce que nous avons vu ce matin, l'Église de Laodicée, eh bien, est réellement indépendante de l'organisation religieuse nommée Église Adventiste du Septième Jour. Je reprends. Ce matin, nous avons vu que l'Église de Laodicée est indépendante de l'organisation religieuse nommée Église Adventiste du Septième Jour, car, je le rappelle, Laodicée était déjà en vigueur, ou la période de temps pour la proclamation du message à Laodicée a commencé bien avant l'organisation de la dénomination des Adventistes du Septième Jour. Bien avant que les croyants au message du troisième ange s'organisent, d'accord? Cela a commencé en 1844. Et ce n'est qu'en 1856 qu'ils ont reconnu que cela s'appliquait en fait à eux. Et tout cela, mes amis, était bien avant la constitution d'une dénomination en 1860, bien avant la constitution des premières conférences, d'accord, en 1861 et 62, et bien avant la constitution de la Conférence générale des Adventistes du Septième Jour en 1863. Donc, je vais répéter le postulat, parce que c'est un postulat, c'est un fait, et personne ne pourra le contester dorénavant, c'est que l'Église de Laodicée est indépendante de l'organisation religieuse nommée Église Adventiste du Septième Jour. Oui, mes amis. Elle l'est et elle le sera toujours, parce que c'est ce qui s'est passé au départ, mes amis. Laodicée était indépendante d'une quelconque dénomination, d'une quelconque organisation religieuse nommée Église Adventiste du Septième Jour, mes amis. Ainsi, le fait que cette organisation religieuse dénommée Église Adventiste du Septième Jour soit devenue une fille de Babylone, eh bien, ne fait pas de l'Église de Laodicée Babylone, puisque il y a une indépendance, mes amis. Laodicée existait bel et bien avant la constitution de cette organisation religieuse. Ça veut dire que qu'elle vienne à l'existence ou qu'elle disparaisse ou qu'elle apostasie en raison de ses compromis innombrables, mais mes amis, Laodicée continue à exister. Laodicée continue à exister puisque c'est la septième et dernière phase de l'Église du Christ sur terre qui s'étend de 1844 jusqu'à la fin, mes amis. Je pense que cela est clair. Je pense que cela a clairement été établi. Mais il est vrai que j'ai eu à cœur de présenter ce message en raison du fait que j'ai été à de nombreuses reprises durant mes voyages, durant mes récents voyages, j'ai été confronté à des personnes qui n'arrivaient pas à comprendre cela, d'accord? Mais est-ce que cette présentation n'est censée que nous apporter cette connaissance-là? C'est-à-dire que on peut arriver à comprendre, je dirais, les choses. On peut arriver à comprendre, ok, d'accord, que oui, ok, c'est clair maintenant que Laodicée, d'accord, Laodicée n'est pas Babylone, et que même si la dénomination devient Babylone, Laodicée n'est pas Babylone et continue à rester valable, ok, ok. Mais est-ce qu'il n'y a pas un message pour nous, une application pour nous? Est-ce que ce message-là, je l'ai présenté simplement pour rester juste un argumentaire, voilà, bien ficelé, historique, biblique, l'esprit de prophétie, historique, etc., etc. Est-ce que ce n'est destiné que à rester un argumentaire en ce matin? Moi, je pense que non. Parce que je pense qu'il y a une question à laquelle nous n'avons pas encore répondu et parce que nous ne nous sommes pas encore posé cette question réellement. Ou tout du moins, à la lumière de ce que nous avons vu, nous ne l'avons pas encore posé. Donc, à la lumière de tout ce que nous avons vu ce matin, j'aimerais poser la question suivante. À qui s'applique le message de la Odyssée aujourd'hui? Je reprends. À qui s'applique le message de la Odyssée aujourd'hui? Le message à la Odyssée, si vous préférez, aujourd'hui. Mes amis, au début de la période du temps de la proclamation du message à la Odyssée, bien que pouvant s'appliquer aux croyants des églises de Babylone, le message à la Odyssée avait une application particulière à ceux qui avaient la foi au message du troisième ange. Je reprends ça. Au début de la période du temps de la proclamation du message à la Odyssée, bien que pouvant s'appliquer aux croyants des églises de Babylone, aux ministres des autres églises, eh bien, le message à la Odyssée avait une application particulière à ceux qui avaient la foi au message du troisième ange. De même, mes amis, de même, à la fin de la période de temps de la proclamation du message à la Odyssée, devrais-je dire, eh bien, bien que pouvant s'appliquer aux croyants des églises de Babylone, l'église adventiste du septième jour, y compris puisqu'elle est devenue une fille de Babylone en raison du fait qu'elle ait abandonné la véritable adoration, abandonné la compréhension du sanctuaire, de l'expiation finale, et encore d'autres choses, eh bien, le message à la Odyssée a une application particulière à ceux qui ont la foi au message du troisième ange. Ceux qui, contrairement au protestantisme apostat et l'église adventiste du septième jour y compris, croient que Jésus fait l'expiation depuis 1844. Mes amis, nous devons comprendre que ceux qui sont avant tout concernés par ce message, ceux qui sont avant tout concernés par ce message à la Odyssée, ce ne sont pas les autres, hein. Ah ouais, c'est les autres, oui, c'est eux. Regardez, ils pensent qu'ils ont tout, ils se croient forts, on leur apporte la vérité sur Dieu, ils refusent, ils disent qu'ils sont riches, ils n'ont besoin de rien, ils n'acceptent pas. Mes amis, ce n'est pas avant tout à eux que cela s'applique. Non, c'est d'abord à vous et à moi qui professons la véritable foi au message du troisième ange, qui professons la foi adventiste du septième jour historique. Nous sommes les premiers concernés par ce message. En plus de s'appliquer d'abord à eux, ceux qui croyaient en l'expiation finale au 19e siècle étaient ceux qui devaient apporter ce message aux ministres des autres églises. Je reprends. En plus de s'appliquer d'abord à eux, ceux qui croyaient en l'expiation finale au 19e siècle étaient ceux qui devaient apporter ce message aux ministres des autres églises. De même, en plus de s'appliquer d'abord à eux, ceux qui croient en l'expiation finale au 21e siècle sont ceux qui doivent apporter ce message aux ministres des autres églises et les pasteurs adventistes du septième jour, y compris, tout comme les pasteurs protestants, mes amis. Oui, parce que Ellen White disait, elle comprenait avec son mari que cela s'appliquait d'abord à eux, eux qui croyaient, qui avaient foi au message du troisième ange. D'accord? Mais il comprenait aussi que cela devait être apporté aux ministres, aux pasteurs des autres dénominations, étant bergers du troupeau. Mes amis, vous pouvez pensez ce que vous voulez. Mais Apocalypse 18 nous dit quoi? Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ça veut dire que Dieu a un peuple dans Babylone. Et dans Babylone, il y a des bergers. Alors, bien évidemment, on va tout de suite comprendre que ce sont des faux bergers, des bergers qui ne pèsent pas le troupeau comme ils devraient le faire. Mais n'empêche que ce sont quand même des bergers. Et que Dieu attend de nous que nous puissions leur apporter le message. Parce que si nous gagnons un ministre, un pasteur d'une église déchue, eh bien, c'est toutes les âmes qui sont sous son influence que nous gagnons, mes amis. Donc oui, ce sont des bergers. Bon ou pas bon, c'est pas ça le problème. C'est que ce sont des bergers. Ils ont des brebis et il y a des âmes sincères dans le troupeau qu'ils sont en train de paître. D'accord? Et qu'Apocalypse 18 me dit, mon peuple, sortez de là. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc, nous devons, nous qui croyons et avons raison de croire que nous avons la véritable foi adventiste du sixième jour, eh bien, nous devons comprendre que cela s'applique d'abord à nous et que nous avons besoin, tout comme à l'époque d'Ellen White, d'apporter ce message aux autres, mes amis. Comme James White, en 1856, je dois dire la chose suivante. Combien la triste déclaration de cette église de la Odyssée n'est pas humiliante pour nous en tant que peuple. Et cette terrible description n'est-elle pas l'image de la l'image la plus parfaite de notre condition actuelle? Oui. Et il sera inutile d'essayer d'échapper à la force de ce témoignage adressé à l'église de la Odyssée. Puisse le Seigneur nous aider à le recevoir et à en tirer profit. Mes amis, les paroles suivantes nous concernent particulièrement. Les paroles suivantes ont une application toute particulière pour nous, pour vous et moi, qui croyons en la vérité présente. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, c'est-à-dire la foi qui œuvre par amour et qui purifie l'âme, pour devenir riche. Et des vêtements blancs, à savoir la justice du Christ, pour être vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse. Et un collyre, c'est-à-dire le discernement spirituel que donne le Saint-Esprit, pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Mes amis, je ne pense pas, personnellement, je ne pense pas être épargné par ce terrible reproche émanant du témoin fidèle et véritable. Car, voyez-vous, ma compréhension de la vérité présente fait de moi le premier concerné par ce message. Et oui, je connais les vérités fondamentales adventistes du septième jour mieux que personne. Et je peux les enseigner à d'autres. Mes amis, c'est justement ça qui fait de moi le premier concerné par ce message. Et je crois que je ne suis pas le seul à croire et à vouloir partager ce message à d'autres. Je crois que je suis le premier concerné par ce message. Et en est-il de même pour vous qui partagez la même foi adventiste du sixième jour pur? J'espère que oui, mes amis. J'espère que oui. Car seuls ceux qui accepteront le message adressé à la Odyssée, eh bien, feront partie de l'Église triomphante, mes amis. Seuls ceux-là feront partie de l'église triomphante. Et si nous n'acceptons pas ce message, mes amis, alors là, nous pouvons être sûrs que nous allons eh bien, retourner à Babylone, mes amis. Que Babylone va venir s'installer ici, dans notre esprit, mes amis. Parce qu'à la fin des temps, mes amis, il n'y a que deux camps. Il y a le camp de la bête et de son image qui prennent la marque de la bête et de son image. Et le camp des saints, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il n'y a que deux camps, mes amis. Donc, si nous n'acceptons pas le message à Laodicée, c'est clair que nous ferons bien partie de Babylone. Parce que, mes amis, c'est Babylone et son système qui va recevoir la marque de la bête. Pas le camp des saints, mes amis. Puisse Dieu nous aider à comprendre et à appliquer cela pour nous-mêmes. Nous qui avons reçu de grandes vérités. Nous qui reconnaissons que, oui, la dénomination a apostasié. Oui, les choses sont ainsi. Cela devrait nous conduire à la plus grande humilité, mes amis. À la plus grande des humilités. Et puisse Dieu puisse accomplir cela dans notre vie. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.